Bonsoir à tous. Nous sommes donc dans le message à la quatrième église, et c'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 toujours, et à partir du verset 18. L'église de Thyatire, je vais lire. « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Alors voilà une église qui a beaucoup, beaucoup de qualités. C'est la liste la plus longue des qualités de cette église, où il dit, verset 19, « Tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité dans ton service, ta persévérance, tes œuvres. » Vraiment, c'est une église quand même modèle. Il n'y a pas à dire pour beaucoup de points. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette église? Quel est le mot qui vous viendrait à l'esprit si on devait résumer la qualité de cette église? Active, je dirais. Donc les qualités de cette église, c'est que c'est une église active. Elle sert le Seigneur, elle agit, elle a des œuvres abondantes, et même avec persévérance, elle est fidèle aussi dans le service. C'est une église qui fait plein de choses, qui est vraiment plein d'activités, plein de projets, et des projets qui servent la communauté, qui servent les autres. Donc c'est bon ça. Mais il y a un mais, et c'est ça qui est toujours difficile. Mais avant de parler de ça, j'aimerais vous dire quelques mots sur Thyatire. Thyatire, c'est encore une fois en Turquie. Donc la plupart des églises là se trouvaient en Turquie, puisque Jean, lui, a été longtemps pasteur à Éphèse, en Turquie. Cette ville-là est située à 60 km au nord de Smyrne. Ça s'appelle aujourd'hui Akhisar, cette ville de Thyatire. C'était une ancienne garnison, une petite ville, et dont le commerce principal, c'était des étoffes teintes en pourpre. Si vous connaissez votre Bible, dans le livre des Actes au chapitre 16, les apôtres arrivent dans la ville de Philippe, et là, ils rencontrent une femme qui s'appelle Lydie. Et elle est marchande de pourpre de Thyatire. Et pourquoi? Parce que c'était le commerce principal. Thyatire était connu pour ses marchands de pourpre. La pourpre est une teinture de l'Antiquité découverte par les Phéniciens à base d'un coquillage. Alors pour ceux qui aiment beaucoup les détails, c'était un mollusque gastéropode de type murex. Voilà, avec ça, si vous n'avez pas compris ce que c'est. Donc c'était un mollusque dont on écrasait la coquille et ça faisait une teinture indélébile. C'est-à-dire on ne pouvait pas la laver, l'effacer quand c'était teinté dans le tissu. On utilisait un insecte pour faire le cramoisi. Je ne sais pas si dans vos billes vous avez cette expression, le cramoisi. C'est du rouge aussi. Et là, c'était à base d'insectes. On utilisait aussi de la terre pour d'autres couleurs. Mais là, c'est la pourpre qui était principalement utilisée. Ça me fait penser toujours, la pourpre et le cramoisi, au prophète Ésaïe. Et j'aime bien faire cette parenthèse. Ésaïe 1,18, je ne sais pas si vous connaissez ce passage, je vous le lis. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Et j'aime cet appel de Dieu, il dit « Venez, plaidons !» Mais plaidons quoi? Plaidons coupable, hein? Si vos péchés sont comme le cramoisi ou la pourpre, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles ont ces teintures? Elles sont indélébiles. Si vos péchés sont indélébiles, si vous êtes vraiment, vous n'arrivez plus à arrêter de pécher, vous voulez arrêter de pécher mais vous n'y arrivez pas, et vous aimeriez laver votre conscience, mais rien ne peut laver notre conscience, pas même Ariel, hein? Dernière génération, il n'y a pas même une psychothérapie, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a qu'une chose qui peut laver le cœur et la conscience, c'est le sang précieux de Jésus-Christ qu'il a versé à la croix pour nous, parce que quand le Seigneur est mort sur cette croix, il a payé pour une fois pour toutes tous nos péchés. Et la Bible dit que ceux qui croient en Jésus sont sanctifiés une fois pour toutes. On est saints. Lavez. Combien c'est merveilleux cette nouvelle que même la pourpre n'arrive pas à rester sur nos consciences. Et là, donc, c'était la ville de Thyatire. Comme dans les villes précédentes qu'on a vues, c'était une ville où il y avait beaucoup de commerce, donc toutes ces villes étaient très commerçantes et les guildes de commerçants étaient très ancrées dans le paganisme. Voilà. La religion païenne était faite d'orgies, de festins, de viandes sacrifiées, d'adorations de statues, d'idoles. Ici, il parle des profondeurs de Satan. C'était aussi quasiment de l'occultisme, hein, où on avait des mystères qui nous étaient révélés par un mage, par quelqu'un, par une sorte de gourou, de prophète païen. Et la société était remplie du paganisme, parce que c'était la seule religion qu'ils connaissaient, mis à part les quelques juifs qui étaient là, qui adoraient Yahvé l'Éternel. Et donc les chrétiens étaient toujours au milieu de ce paganisme, ce n'était pas évident à vivre. Malgré tout, cette église était très active, avec un problème, c'est qu'elle avait laissé en son sein une prophétesse qui amenait les chrétiens à désobéir à Dieu, à vivre vraiment dans le péché, dans le compromis avec le paganisme. C'est dur d'être équilibré en tant qu'individu, en tant qu'église. Il y a des églises qui sont strictes dans la doctrine, vraiment qui gardent la parole. Et comme Éphèse, hein, il dit, tu ne peux pas supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs. Éphèse avait beaucoup de discernement spirituel pour mettre de côté les faux docteurs. Et il y en a toujours. Il y a des gens, ils vont dans les églises pour enseigner des fausses doctrines. Vous dites, mais à quoi ça sert? Mais ils ont tout à gagner, ils tirent une gloire, certains tirent de l'argent. Cette semaine, j'ai reçu la visite de ce chrétien qui propose des livres d'un prophète chrétien et qui a écrit des livres qui sont censés révéler des choses que les autres chrétiens ne disent pas. Et en fait, je suis en train de le lire, donc c'est un peu compliqué, mais en gros, même si nous ne sommes pas juifs, nous devons vivre comme les juifs pour être des bons chrétiens. Donc nous devons respecter le sabbat du vendredi, donc au coucher du soleil, toutes les lois mosaïques, etc., toute la loi mosaïque. Et puis il y a plein d'idées un peu bizarres aussi, il y a un mélange, une confusion. Et cet homme, il va dans les églises pour proposer ce livre et dire, voilà, c'est une prophétie, vous avez besoin. Il est très gentil, vraiment très aimable, très doux, très humble. Mais ce qu'il propose contredit l'écriture dans plusieurs passages. Donc, on peut être très clair sur la doctrine, mais ne pas avoir l'amour, le service, le dévouement, la ferveur. Qu'est-ce que Éphèse avait? Ils avaient le discernement, mais ils avaient abandonné quoi? Leur premier amour. Thyatire, c'est l'inverse. Thyatire, ils avaient plein d'amour, ils servaient tout le monde, ils étaient tout le temps en train de faire des œuvres, mais ils manquaient de discernement spirituel. Ils avaient au milieu de leur église une femme qui se mettait à prophétiser des choses et à dire des choses qui amenaient les chrétiens dans le péché. Il faut arriver à être équilibré en toutes choses. Et pour vraiment, on est tiraillé. Soit on devient légaliste. Non, c'est la doctrine. Et puis alors on devient un cercle fermé, de plus en plus fermé. Et il y a de moins en moins de monde dans l'église parce qu'on est très fermé. Soit on est très ouvert, très accueillant, mais sans discernement. Alors là, l'église devient un moulin. C'est-à-dire, il y a 1000 personnes, 2000 personnes, mais vous demandez combien il y a de chrétiens véritables dans cette église. Hein. Aux États-Unis, j'ai visité des très grandes églises. Je me demande parfois combien il y a de chrétiens dans ces églises. Voilà. Parce que le message est tellement faible, tellement petit. C'est surtout la musique, le chant, c'est très social, c'est un club chrétien. Alors il faut arriver à garder les deux. Et c'est un petit peu aussi le message hein, de cette... Pour nous, si le Seigneur nous écrivait une lettre, est-ce que nous avons gardé les deux? C'est dans l'Épître aux Éphésiens où il nous est dit comment avoir cet équilibre. Éphésiens 4, 15. Où est l'équilibre? Il est là dans ce verset. Je lis. En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Qu'est-ce qui est dit? Dans cette petite phrase toute courte, il y a plein de choses, mais on doit professer la vérité avec amour. On ne doit pas professer la vérité avec dureté, avec légalisme, avec hypocrisie, avec tout ce que vous voulez. Mais on doit professer la vérité. On ne professe pas l'amour, on professe la vérité. C'est-à-dire, on enseigne, on croit, on répand, on proclame la vérité. La vérité, elle est où? Elle est en Christ et elle est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas notre vérité, on ne proclame pas la vérité baptiste. Il n'y a pas de vérité baptiste. Il y a la Bible, la parole de Dieu. Dans l'amour, ce n'est pas l'amour dans la vérité, c'est la vérité dans l'amour. En s'attachant à qui? À Christ, en regardant à Jésus-Christ. Si on essaye d'aimer selon les hommes, on va être trop tolérant avec le péché. On va dire, oh quand même, oh, il est gentil, regarde, bon ce qu'il dit c'est un peu faux, mais il est gentil. Ça c'est l'amour humain. Mais la vérité dit, il est gentil, mais c'est faux. C'est pas biblique. Il contredit la vérité des Écritures. Donc, tu n'as pas de place parmi nous. Et puis, il y a la vérité selon les hommes. La vérité selon les hommes, c'est, nous sommes les seuls à avoir la vérité. Je suis même le seul, finalement. À la fin, c'est ça. Hein, c'est ça. Même les autres, même mes proches. J'aime bien toujours cette histoire de ce... Je ne sais pas quelle dénomination il était. D'ailleurs, c'était sa propre dénomination. Enfin, il avait sa petite église à la campagne. C'était tellement sectaire et petit que ça diminuait de semaine en semaine. Hein, le nombre de personnes qui venaient à son église. Et il était le soi-disant pasteur. Et un jour, un voisin lui a dit « Alors, ça en est où ton église ?»« Ah ben là, en ce moment, il n'y a que moi et ma femme. » Parce qu'il y avait vraiment des faux docteurs. Hein. Oh là là, ça n'allait pas. Hein. J'ai fait un peu le ménage. Ah bon. Mais même ma femme, des fois, j'ai des doutes. Et donc, ça, c'est la vérité selon les hommes. C'est-à-dire, il n'y a que moi qui détient la vérité au monde. Non. La vérité selon Dieu, elle est aimante, miséricordieuse, et elle est humble. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas moi la vérité, c'est Jésus-Christ. Et quand on regarde à Christ, en fait, on est équilibré. C'est quand on regarde à des hommes qu'on commence à partir à droite, à gauche, parce que les hommes ne sont pas équilibrés. On a tendance à aller dans le pendule à droite ou à gauche. Pour avoir vraiment une foi équilibrée et une église équilibrée, il faut que Christ soit au centre, qu'on soit christocentrique, comme on dit, centré sur Jésus-Christ. Alors, cette église avait donc un grave problème en son sein. C'est très grave parce que le Seigneur Jésus prononce des paroles sévères, hein. Il dit « Je vais les juger très sévèrement ». Quel était le problème? Eh bien, il y avait cette Jézabel. Alors, cette femme ne s'appelait probablement pas Jézabel. Jézabel, c'est une allusion à l'Ancien Testament. Il y avait cette femme dans l'Ancien Testament qui était la fille de Ethbaal, roi des Sidoniens, prêtre d'Astarté. Et elle se marie avec un roi d'Israël. Donc elle était vraiment dans le paganisme le plus total. Hein. Baal, c'était le dieu ennemi de Dieu, hein, de Yahvé. Et Akab, pour des raisons politiques et diverses, et comme il n'avait aucune foi réelle en Yahvé, il épouse cette Jézabel. On trouve ça dans le premier livre des rois, notamment au chapitre 16. Et très vite, c'est elle qui commande à la maison, c'est elle qui porte la culotte, comme on dit. Akab, il ne fait que suivre ce qu'elle lui demande, et elle lui dit « Je veux que d'abord qu'on adore tous Baal en Israël, et qu'on élimine tous les prophètes de l'Éternel. » 1 Roi 18.4, elle fait tuer tous les prophètes de Yahvé. Un génocide, si on peut dire, un massacre des prophètes de Dieu. Et à la place, elle met 400 prophètes de Baal. Vous savez, Israël, c'est quand même pas très grand. 400 prophètes de Baal, ça veut dire elle va laver le cerveau de toute la population avec son culte à Baal. Un jour, elle convoite la vigne de son voisin. Son voisin s'appelait Naboth. Et elle veut la vigne parce qu'elle veut agrandir son terrain. Et ça montre son caractère. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le voir en lui disant « Donne-moi ta vigne ». Et lui dit « Non, mais moi, c'est dans ma famille de père en fils. Je ne peux pas te donner ma vigne. C'est notre héritage. Je vais le donner à mes enfants. Je suis désolé, je ne peux pas. » Alors, elle le fait assassiner. Et elle fait, avec son terrain, elle fait un potager, hein, juste pour avoir un petit potager. Elle était la reine, elle pouvait avoir tous les terrains qu'elle veut, mais il fallait qu'elle assassine son voisin, et ça montre vraiment son caractère. Élie sera le prophète envoyé par Dieu pour rétablir le culte à Yahvé. Hein? Donc il y a toute l'histoire du prophète Élie. Il va prononcer un jugement de Dieu sur elle et son mari, et ce jugement va s'accomplir. Si on regarde 2 Rois 9:30, on voit comment elle est morte. Je vais vous le lire. 2 Rois 9:30. Jéhu entra dans Jizréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Il leva le visage vers la fenêtre et dit « Qui est pour moi ? Qui ?» Et deux, donc c'était un homme qui faisait une révolution en Israël. Et deux ou trois eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit « Jetez-la en bas !» Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but et il dit « Allez voir cette maudite et enterrez-la car elle est fille de roi. » Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit « C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie le Tishbite en disant « Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jizréel et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs dans le champ de Jizréel, de sorte qu'on ne pourra dire « C'est Jézabel ». Jézabel, c'était l'ennemi numéro un de Dieu. Et voilà comment elle a fini. Jéhu était un homme violent, et ce n'est pas Dieu qui lui a dit de la jeter par la fenêtre. Hein. Mais Dieu avait annoncé, savait d'avance comment elle allait finir. Quand on fricote avec Satan, hein, parce que Baal, c'était Satan, on finit mal. Hein. Soit le suicide, soit une mort violente, soit une mort raccourcie. Elle était idolâtre, cruelle, égoïste, avide de pouvoir, intrigante. Eh bien, apparemment, cette femme dans l'église était comme ça. Et en plus, elle disait qu'elle était prophète. Et c'est ce que Dieu dit, hein. Elle dit qu'elle est prophète, mais elle ne l'était pas. Alors, dans l'église, il y a des prophétesses dans le Nouveau Testament. Les filles de Philippe, le diacre, hein, par exemple, prophétisaient. Il y avait des femmes qui prophétisaient dans le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit au temps du livre des Actes. Donc, les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils avaient comme livre? Ils avaient le Tanakh, l'Ancien Testament. Et pour tout ce qui était de la Nouvelle Alliance, ils avaient besoin qu'on leur dise quoi faire. Donc, il y avait les apôtres qui leur expliquaient et qui ont commencé à écrire des lettres qui ont formé le Nouveau Testament. Mais pendant les réunions, il fallait bien quelque chose quand il n'y avait pas encore les lettres de Paul et de Pierre. Et donc, il y avait des prophètes inspirés par le Saint-Esprit qui disent « Voilà, voilà qui est Christ, voilà ce qu'on doit faire, voilà comment on doit adorer le Seigneur, voilà comment on doit croire. » Et c'était des prophètes inspirés pendant les cultes. Mais il y avait parfois des déviations et des problèmes, des faux prophètes, et donc Dieu avait dit « Il faut du discernement, vous ne laissez pas parler n'importe qui. » En particulier à l'église de Corinthe, il y avait du désordre, c'était la foire d'empoigne. Pendant le culte, tout le monde se mettait à parler, il y avait des gens qui priaient en langue, on ne comprenait rien, d'autres qui se levaient, il y avait beaucoup de femmes qui prophétisaient toutes ensemble, et c'était à celle qui allait prophétiser le plus fort pour gagner. Et à un moment, Paul a dit « ça suffit, que les femmes se taisent dans les assemblées ». Voilà. Donc c'était particulier à Corinthe. Mais il y a un passage qui n'est pas particulier à Corinthe, c'est dans 1 Timothée 2:12. Et il donne un enseignement pour les femmes dans l'Église. Il dit, 1 Timothée 2:12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. » Voilà. En d'autres termes, si on résume, pas de femme pasteur, selon ce que nous comprenons de ce passage. Pourquoi ? Parce que une femme pasteur, forcément, elle prend autorité sur les hommes dans l'Église. Elle enseigne la parole et donc elle prend autorité. Alors, on peut dire, mais est-ce que ce n'est pas un peu dur ? Il y a un mouvement généralisé pour la libération de la femme qui vient dans l'Église et qui dit il faut arrêter que ce soit, qu'il n'y ait que des hommes pasteurs, il faut que les femmes aussi soient pasteurs. Elles sont très bien, les femmes pasteurs. Elles ne sont pas moins compétentes, et c'est vrai. Elles peuvent faire des études théologiques comme les hommes, elles peuvent prêcher comme les hommes, peut-être même elles sont plus compatissantes, je ne sais pas, que les hommes. Mais dans l'ordre de Dieu, de l'Église, ce sont les hommes qui sont des pasteurs. Les 12 apôtres que Jésus a choisis, pourtant Dieu sait que Jésus était extrêmement attentif aux femmes. C'est lui qui a sauvé la femme adultère hein, d'une mort certaine. Il avait des femmes qui le soutenaient de leur bien. Il s'est occupé de Marie de Magdala et d'autres femmes. C'est à des femmes qu'il s'est montré en premier après sa résurrection. Donc Jésus n'était pas un machiste de son époque. Hein. Jésus a bien montré que la femme est l'égale de l'homme. Et il a même dénoncé les divorces qui étaient faits par les Juifs, hein, où on pouvait mettre sa femme dehors pour un rien. T'as raté ton plat ce soir, dehors. Et quand la femme était dehors, elle ne pouvait plus se remarier, elle ne pouvait quasiment plus avoir de revenus. Donc c'était catastrophique dans la société juive. Et Jésus a dénoncé, il a dit, ça c'est vraiment un péché de mettre vos femmes dehors comme ça. Et pourtant, il a choisi qui pour les apôtres ? 12 hommes. Il n'a pas choisi 11 hommes et une femme, il a choisi 12 hommes. Parce que c'est comme ça que Dieu voit les choses. Après, est-ce que ça veut dire que les femmes ne doivent avoir aucun rôle dans l'Église ? Ce serait absurde de dire une chose pareille. Les femmes ont un rôle énorme dans l'Église. Vous regardez même le livre des Actes, elles sont présentes, elles prient, elles font des œuvres spirituelles. Elles peuvent exhorter, donner, encourager. Il y a plein de choses qu'une femme peut faire. Voilà. Mais le Seigneur a dit qu'elles ne prennent pas autorité sur l'homme. Et nous croyons que c'est à prendre tel que c'est dit. Qu'il n'y a pas à voir le contexte historique, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'églises qui ont des femmes pasteurs, parce que d'abord les hommes manquent à l'appel. Hein. Mais on ne veut pas se laisser influencer par cela. Pour nous, c'est un peu dans cet esprit jézabélien, où vous avez dans certains milieux des femmes de pasteurs qui prophétisent, qui prêchent presque mieux que leur mari, dans certaines églises, et ça amène du désordre au final. Alors, il y a une raison où Dieu ne veut pas que les femmes soient en première ligne et ne soient pas dans l'autorité, parce que dans l'ordre de la famille, le mari est le chef du foyer, et donc c'est un homme qui est responsable dans l'église. Voilà. Mais sans les femmes, l'Église n'avance pas. On ne veut pas une Église d'hommes. Et voilà. Mais c'est au niveau des autorités. Voilà. Oui, c'est un ordre, c'est une façon d'ordonner les choses. Dieu parle dans 1 Timothée, hein, il parle du premier péché où c'est Ève qui a été séduite et qui a ensuite donné à son mari. Son mari, à nouveau, lui-même a été séduit. Et donc, il y a une raison aussi qui revient très longtemps. Mais les femmes, dans la parole de Dieu et dans l'Église, sont égales aux hommes. C'est-à-dire elles ont le même salut, la même vie éternelle, le même Saint-Esprit. Elles ont des dons spirituels, mais pasteur, enfin dirigeant de l'Église, non. Ou enseignant des hommes, non. Elles peuvent enseigner les enfants, elles peuvent enseigner les femmes, elles peuvent évangéliser dans la rue, etc. Et après, il y en a qui disent « Ah non, une femme ne devrait jamais évangéliser un homme ». Là, je pense qu'après, il ne faut pas aller trop loin non plus. Ce n'est pas dans l'Église, là. Hein, on est dehors. Voilà. Mais même dans le couple, il est dit, c'est Pierre qui dit, si un homme, un mari n'obéit pas à la parole, son épouse doit pouvoir le gagner sans parole par sa conduite. Justement. Et donc, même dans le couple, Dieu ne veut pas que la femme soit en train de prêcher à son mari. Donc, autant dire, ce n'est pas du tout dans la bien-pensance d'aujourd'hui. Hein. Mais ce n'est pas du machisme, ce n'est pas un mépris pour les femmes. Au contraire, le Nouveau Testament élève la femme du premier siècle. Hein. Et nous sommes, moi en tant qu'homme, je suis reconnaissant pour les femmes et qui jouent un rôle très important dans les églises, qui sont missionnaires aussi pour le Seigneur. Voilà. Les hommes ne sont pas infaillibles. Ce n'est pas parce qu'un homme est pasteur qu'il a toujours raison et que les femmes n'ont rien à lui dire. Un pasteur doit être humble et doit reconnaître qu'il a besoin du Seigneur et des frères et sœurs aussi pour s'occuper de l'Église. Mais le problème de Jézabel, ce n'était pas seulement qu'elle prenait autorité, hein, c'est qu'elle avait une fausse doctrine. Et donc, elle voulait amener l'Église à fricoter avec les idoles et à se livrer à la débauche. Hein. Voilà. Elle séduit les serviteurs, donc il y a une idée de séduction. Alors, ça revient un petit peu à ce qu'on avait dit, hein, au compromis que certains pouvaient faire en disant « Oui, mais moi, quand je suis dans mon commerce, là, avec ma guilde de commerçants, tous les vendredis ou tous les samedis, il y a le festin. Et là, il y a les viandes sacrifiées aux idoles, il y a les danseuses, il y a le vin qui coule à flot. On a des statues d'idoles, on va prier au temple avant, païen. Moi, je ne peux pas, je suis chrétien, je ne peux pas aller là. Oui, mais si je ne vais pas là, on va me dire, écoute, tu n'es pas un bon commerçant, ça ne va pas, on te met dehors. Et je perds mon boulot. Et c'était ça, hein, ce qui était difficile pour les chrétiens, c'est que parfois, ils devaient perdre beaucoup de choses en suivant le Seigneur. Mais vous savez, il n'y a pas qu'à l'époque. Hein. Je pense au Japon, par exemple. Bon, il y a peu de chrétiens, et on comprend peut-être pourquoi. Mais au Japon, lorsque vous êtes cadre d'une entreprise, hein, quasiment tous les soirs, vous devez aller au bar karaoké avec votre patron. Donc les Japonais sont fous de karaoké. Hein. Ils chantent sur des chansons américaines, françaises. Et là, il faut boire de l'alcool, de l'alcool, de l'alcool. Hein. Pas que du saké, hein, il y a d'autres alcools. Et il y a des prostituées aussi qui sont là dans les bars. Donc, si votre patron vous encourage, vous allez avec une prostituée, puis vous rentrez vers 2h du matin chez vous. Votre femme, vous attendez qu'elle veille en vous attendant. Si elle est couchée, vous n'êtes pas content. Ben, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc, si vous êtes chrétien, j'ai rien à faire dans ces bars avec des prostituées, à m'enivrer avec... Oui, mais si vous ne le faites pas, votre patron, il va dire, mais tu viens jamais, qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'es pas un bon employé, tu n'as pas l'esprit d'équipe. Parce que pour eux, c'est là que se forme l'esprit d'équipe. Hein, pour être un bon travailleur dans la société, ensuite dans l'entreprise. Là, si vous êtes chrétien, il faut vraiment mettre les limites et dire non. Je veux bien boire un verre avec vous... jusqu'à 7-8 heures du soir, mais moi je rentre voir ma femme. C'est mon épouse, je l'aime et je ne veux pas aller avec des prostituées ou boire ou m'enivrer toute la nuit. Dans d'autres entreprises, en France ou aux États-Unis, vous avez aussi des stages un peu New Age, hein, où vous avez une sorte de gourou qui vous aide à être en esprit d'équipe, avec des pratiques de méditation, de machin. Là aussi, le chrétien, il est en porte-à-faux. Il dit, moi, je ne crois pas à ces trucs hindous ou orientaux ou mantras. Moi, je crois au Seigneur Jésus. Donc, il faut pouvoir le dire sans avoir l'air de toujours critiquer, n'est-ce pas? On n'est pas pour les chamans. Les chamans, c'est la religion païenne. Et pourtant, aujourd'hui, les chamans sont très à la mode, hein. Moi, je vais voir mon chaman toutes les semaines et on a un bon moment. Il prie les esprits et il entre en transe et il me dit ce que je dois faire. Mais ça rentre dans notre société occidentale, toutes ces choses, hein. La méditation transcendantale est vraiment en train de pénétrer la société française et les sociétés, les entreprises, hein. C'est utilisé à l'école ainsi que le yoga. Et dans les entreprises, il y a beaucoup de gens qui ont des postes à responsabilité, qui pratiquent la méditation pour se calmer avant les grandes confrontations, les grandes choses. Alors, c'est vrai, ça les calme, ça leur fait du bien, ou ils font du yoga, ou dans les hôpitaux aussi, dans les écoles. Ça leur fait du bien, mais en fait, ils s'ouvrent à des esprits païens, parce que ça vient du paganisme, ça vient de l'hindouisme. L'apôtre Pierre écrit « C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » Et je pense aussi aux soirées étudiantes, pour les étudiants, ou les bizutages, hein, ou là, un chrétien, encore une fois, il ne peut pas, moi je me souviens, il y a des choses, j'avais dit, non, vous ne me verrez pas là, c'est même pas la peine de me demander d'être là. Ah, oh, mais alors, qu'est-ce que c'est que ça, c'est ta religion qui te l'interdit? Mais c'est ma foi, c'est pas ma religion, mais ma foi me dit, j'ai rien à faire dans ces choses-là, où on s'enivre, on fume de la drogue, ou je sais pas quoi, où les filles deviennent d'un seul coup plus légères que d'habitude. Et je me souviens, il y avait cette fille dans ma classe en prépa. Elle portait des mini-jupes tout le temps. Mais vraiment, alors elle avait des jolies jambes certainement, mais elle était tout le temps, mais vraiment des mini-mini-jupes. Et un jour, on discutait dans un café parce qu'on préparait un examen. Et je ne sais pas comment le sujet est venu. J'ai dit, mais... Ah oui, elle me parlait de son copain. Ah, alors avec mon copain, on fait ci, mon copain, on fait ça. C'est sérieux avec mon copain. Je dis, écoute, c'est formidable, tu es sérieuse avec ton copain, mais est-ce que tu te rends compte qu'avec tes mini-jupes, ça ne fait pas très sérieuse, quoi. N'importe quel garçon, il pense que tu es ouverte à tous les vents. Elle dit, ah bon, tu crois? Et elle ne se rendait pas compte que, bon, que ce n'est pas comme ça qu'on s'habille quand on a un copain sérieux, je ne sais pas, enfin, comment dire. Mais... Voilà, tout ça dans la société avance, et le chrétien, il doit résister, il doit dire, moi je ne fais pas ça, moi je vais suivre le Seigneur. Peu importe le coût, parce que ça coûte. Hein. En tout cas, là, c'était arrivé dans l'Église. Alors c'est ça qui est terrible. Hein. Un chrétien ne doit pas se retirer du monde, comme je l'avais dit. 1 Corinthiens 5, il dit, on ne peut pas arrêter d'avoir des relations avec les impies, avec les débauchés. Parce qu'ils ne sont pas chrétiens, on ne peut pas leur demander d'être purs. Donc, si je fréquente des gens qui ont une vie débauchée, ça peut arriver. Mais je ne dois jamais participer dans leur débauche, évidemment. Mais il faut bien que j'aille vers les gens, que je les connaisse. Enfin, voilà, on ne sait pas ce qu'ils font et ils ne sont pas encore chrétiens. Mais par contre, on doit se retirer des souillures du monde, de pierre de vin. On doit vraiment ne pas se souiller dans les choses du paganisme et de ce monde. Ce qui a fait triompher le christianisme dans l'Empire romain, hein, c'est la pureté, c'est la vérité. Dès qu'il y a eu des compromis, ça a été la fin. Il y a malheureusement beaucoup d'églises qui sont tentées par le compromis. J'avais lu dans ce livre cette église qui, pour avoir du monde le dimanche après-midi à leur réunion d'évangélisation, avait organisé des matchs de catch. Donc les diacres avaient appris le catch, et le dimanche après-midi, dans le gymnase, c'était match de catch chrétien. Voilà. Donc c'est un extrême, mais c'est pour vous dire que ça existe. Voilà. Ça nous fait rire, mais c'est dramatique en même temps. Enfin, voilà. Ils se sont dit, oui, grâce à ça, on va avoir des jeunes, on va avoir du monde qui va venir. Oui, ils vont venir voir le match de catch. Surtout si on leur dit que c'est deux diacres, ils vont dire, oh là là, je veux voir ça, moi. Comme je vous l'ai dit pour les autres églises, chaque église fait partie d'un plan prophétique aussi. Et donc, Éphèse, c'était l'église des apôtres. Smyrne, c'était l'église persécutée sous l'Empire romain, les 10 vagues de persécution. Pergame, c'était l'église impériale qui commençait à imposer, l'église en relation avec l'empereur, le souverain pontife, qui imposait le paganisme, le mélange chrétien-paganisme. Et alors là, ça va encore plus loin, l'église de Thyatire, c'est l'église du Moyen-Âge. L'église au Moyen-Âge est vraiment caractérisée par l'idolâtrie, l'abus de pouvoir et la corruption. Je parle de l'église de Rome. Parce qu'il y avait des églises, toutes ne suivaient pas cela. Idolâtrie, adoration de la Vierge a commencé au Moyen-Âge, vraiment. Adoration des saints, adoration des images, adoration des statues, adoration des reliques, adoration des icônes. Les croisés sont allés en Orient pendant les croisades. Ils ont ramené plein de choses de Jérusalem et d'Israël. Alors tout ce que... Vous allez rire là encore parce que c'est incroyable ce qu'ils ont ramené d'Israël. Ils ont ramené la barbe de Noé. Merveilleux ça, hein? Donc, on vénérait la barbe de Noé ramenée d'Israël. Ils ont ramené les cornes de Moïse. Je ne sais pas pourquoi Moïse avait des cornes. Ne me demandez pas. La pierre de Jacob, la branche où Absalom s'est pris les cheveux lorsqu'il fuyait son père. La branche. Le front de Jésus, son manteau d'une pièce que sa mère avait soi-disant tissé quand il était enfant et qui grandissait avec Jésus. Les larmes de Jésus à l'enterrement de Lazare étaient dans une petite fiole. La table du dernier repas avec les disciples. La pierre de son sépulcre. Une dent de Jésus. Son cordon ombilical. Du lait de la Vierge Marie. Des morceaux de la vraie croix. Hein. Quelqu'un a dit avec les morceaux de la vraie croix, on aurait pu faire une forêt. Hein. Ça, c'est un historien qui a relaté tout ça, hein, Philippe Schaff. Il a fait la liste à peu près de tout ce qui existait au Moyen-Âge. C'est de la superstition totale, c'est ridicule. Et on vénérait, on disait que ça guérissait, etc. Et c'est vraiment cette idolâtrie qui est rentrée dans l'Église en force avec le paganisme. Tout ça, ça vient des païens. L'abus de pouvoir, c'est au Moyen-Âge que le pape est devenu la plus haute autorité du monde. Même au-dessus des rois, Grégoire VII, en 1073, donc au cœur du Moyen-Âge, est le premier pape à s'ériger lui-même en pape. C'est-à-dire, jusque-là, le pape était l'évêque de Rome, élu par les habitants de Rome. Mais d'un seul coup, il a dit, maintenant c'est terminé d'être élu, nous élisons entre nous, hein, les cardinaux. C'est comme ça que ça se passe encore aujourd'hui. Le pape s'est déclaré représentant de Christ sur la terre, quasiment infaillible, et Innocent III en particulier, et le pire des papes, je dirais, un des pires avec les papes italiens qu'on a connus plus tard, mais c'est lui qui ordonna les croisades, l'inquisition, le massacre des hérétiques, et les tortures de l'inquisition, où en fait la torture était considérée comme une bénédiction, puisqu'en torturant les hérétiques, on les faisait avouer afin qu'ils passent moins de temps au purgatoire ensuite. Donc les moines torturaient et c'est les soldats qui devaient tuer après, hein, achever. Parce que j'ai achevé. Mais donc les moines faisaient cette œuvre de torture avec des moyens inimaginables en pensant que c'était pour le bien de l'hérétique. Voilà. Quand vous arrivez à ce changement, c'est qu'il y a quelque chose de pourri dans l'Église, hein. La corruption, bien sûr, avec tous les impôts, les indulgences qui étaient vendues, les messes pour les morts. L'idée du purgatoire a été une source de revenus extraordinaire, puisque le purgatoire n'est pas dans la Bible. C'est une idée qui a été rajoutée plus tard. Tous les monastères ramassaient beaucoup d'argent par leur commerce, mais étaient exonérés d'impôts, hein, comme les églises encore aujourd'hui. Les pillages des croisés... l'argent à Rome, l'or qui coulait à flot, hein, à Rome, le marbre, etc. Il y avait également plus de prostituées ailleurs, plus de prostituées à Rome qu'ailleurs en Italie. c'était la ville où il y avait le plus de prostituées, alors que c'est la ville sainte. D'ailleurs, Martin Luther était choqué en allant au XVIe siècle à Rome de voir toutes ces prostituées partout, dans toutes les rues, qui avaient pignon sur rue, et il voyait des prêtres rentrer sans honte, hein, dans la maison, dans les... Voilà. Donc, l'église de Thyatire, c'est cette église de Jézabel, cette église qui mélange la débauche, l'idolâtrie avec la foi. Et Jésus vient avec ses yeux comme des flammes de feu, ses pieds comme de l'airain ardent. L'airain dans la Bible, c'est le jugement. Hein? C'est le feu du jugement. Et il va scruter son église et il va juger et enlever, nettoyer. Il dit, je l'ai appelé à la repentance, je lui ai laissé du temps. Et ça, on voit toujours la miséricorde de Dieu. Même le pire des faux prophètes, Dieu lui laisse un temps de repentir. Mais elle n'a pas voulu se repentir. Alors, je vais la jeter sur un lit. Et là, il y a une sorte de jeu de mots. La débauche, c'est dans un lit. Hein. Et donc là, je ne vais pas la jeter dans le lit de débauche, je vais la jeter dans un lit de souffrance, un lit de maladie, un lit d'épreuve. Hein. Il prononce un jugement très fort. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus veut que ses églises soient pures. Qu'elle ne soit pas un mélange, un compromis. Il veut qu'elle reste dans la pureté évangélique, dans la pureté du Seigneur. Que le Seigneur Jésus soit à l'aise parmi nous. S'il y a de la débauche, s'il y a des gens qui s'enivrent pendant les réunions ou en dehors de réunions dans l'Église, s'il y a de l'immoralité dans l'Église, mais le Seigneur Jésus n'est pas à sa place. Il va s'en aller, hein. Il ne sera plus là. On va se réunir, on va parler de Dieu, mais Jésus ne sera plus là. Il sera dehors, à frapper à la porte. Mais c'est pour ça que c'est important d'être pur et que Jésus juge l'impureté. Hein. Il va même juger ceux qui suivent cette Jézabel, puisqu'il y avait apparemment des disciples hein, qui étaient séduits par elle, mais il les appelle encore à la repentance, à moins qu'ils ne se repentent. Et Dieu appelle toujours, on peut toujours se repentir. Il ne faut pas penser, ça y est, j'ai été trop loin. Non, tu peux te repentir, tu peux revenir au Seigneur. Même si tu as fait des péchés graves, tu peux demander pardon à Dieu et aux hommes que tu as offensés et être pardonné, restauré par le Seigneur. Et puis, il dit, verset 24, « À vous, les autres, qui n'ont pas reçu cette fausse doctrine, hein, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. » Et donc, c'est comme ça qu'elle attirait les gens. Elle disait, « Mais moi, je vais te révéler les profondeurs, les mystères de Satan. » Et ça attire certaines personnes. Ils veulent connaître, ils veulent avoir la connaissance. Ça s'appelle le gnosticisme. Hein. On le trouve dans la franc-maçonnerie ou dans des mouvements comme ça, hein, vous êtes le seul à avoir certains secrets. Voilà. Et dans la foi, c'est transparent. On n'a pas des secrets, on n'a pas des choses cachées. On prêche ouvertement le Seigneur et l'Évangile. Et toute la Bible est ouverte. Et il n'y a pas de choses réservées à des initiés. Mais il dit, « Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. » C'est-à-dire, « Tenez-vous éloigné de cette femme et de son influence. » C'est tout. Et continuez à faire des bonnes œuvres comme vous faites, à servir le Seigneur. Retenez ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Et ça, c'est touchant. C'est-à-dire, nous avons reçu l'enseignement du Seigneur, la parole de Dieu. Il faut la retenir. Il ne faut pas se laisser influencer par les modes, par les faux prophètes, par l'ambiance générale de la société. Il faut vraiment rester attaché à la parole. Paul dit, hein, « J'ai gardé le bon dépôt ». Hein, il considérait ça comme un dépôt. Dieu lui avait confié ça. Le Seigneur Jésus lui avait révélé certaines choses. Il dit, je l'ai gardé jusqu'à la fin de ma vie. C'est-à-dire, je ne l'ai pas corrompu, je ne l'ai pas modifié, j'ai suivi le Seigneur. Il fait toujours la promesse à la fin au vainqueur. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. C'est quelque chose, ça veut dire que lorsque Christ va venir régner sur la terre, lorsqu'il reviendra, ceux qui ont marché avec Dieu pendant le temps de l'Église seront des chefs, hein, des leaders sur les nations. Voilà, ils vont régner avec Christ. D'ailleurs, le Seigneur dit, hein, on va régner avec Christ, mais pas tous. Le chrétien qui a vécu dans la désobéissance, il ne va pas être avec ceux qui règnent. Il sera sauvé, mais il ne sera pas dans le règne. Jésus dit, je lui donnerai l'étoile du matin, et on va terminer avec cette belle phrase. Qu'est-ce que c'est l'étoile du matin? C'est deux pierres qui nous en parlent. Il dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase, Pierre ? Il veut dire que la prophétie, elle parle de temps futur, qu'on ne voit pas. Pour l'instant, on est dans les ténèbres, mais elle nous éclaire, elle nous dit, suis la lumière là, de la prophétie, ça va s'accomplir, et tu vas voir l'étoile du matin, parce que l'étoile du matin, c'est la première étoile, je pense que c'est Vénus, hein, c'est l'étoile du berger aussi, ou la plupart du temps, non ? Pas forcément. Il y a Jupiter aussi peut-être, ou je ne sais pas, non ? Voilà, il peut y avoir différentes. En tout cas, c'est la première étoile qu'on voit avec le jour qui se lève. Et cette étoile, c'est le Seigneur Jésus, évidemment. C'est lui qu'on va voir à travers la prophétie qui annonce son retour. Le chrétien, il doit toujours être regardé à Christ. Et nous verrons Christ quand il reviendra. On ne sait pas quand il reviendra, mais on va le voir. Il va venir nous chercher. On doit avoir cette attente et non pas nous laisser influencer dans les choses viles de ce monde. Que le Seigneur nous éclaire et nous aide à pratiquer sa parole, à rester pur, équilibrer la vérité dans l'amour et croître en Jésus-Christ. Et quand on a ça, on n'a pas à s'inquiéter du reste. Le Seigneur dit, je ne mets pas d'autre fardeau sur toi. Continue dans la voie que tu suis. On va terminer par un mot de prière et puis la fin du cantique.